Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous allons vous présenter les événements musicaux de la seconde quinzaine de février, entre autres Lucia di Lammermoor à l'Opéra National du Capitole, le chef-d'œuvre de Gaetano Donizetti y est programmé du 20 février au 1er mars lors de 8 représentations avec une double distribution où se côtoient de grandes stars de la scène lyrique actuelle et de nombreux talents de la jeune génération. Autant de bonnes raisons de ne pas rater cette production qui reprend la mise en scène de Nicolas Joël et que va donc nous présenter Robert Pénavert, notre monsieur opéra. Je rappelle que Robert est l'un des deux cofondateurs et rédacteurs du site Classique Toulouse et qu'il est chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31 ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. L'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse est notre ami Serge Chauzy, également chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Serge est à nos côtés pour co-animer cette émission et c'est avec lui que nous allons revenir tout de suite sur l'actualité musicale la plus récente, Retour arrière.
Mélomanie, Retour arrière.
Bienvenue aussi à vous deux, merci d'être encore une fois fidèles au rendez-vous de Mélomanie. Nous allons commencer par un retour sur le dernier concert en date de l'Orchestre National du Capitole. Il a été donné le jeudi 12 février à la Halle aux Grains. À cette occasion, la phalange toulousaine était dirigée par un jeune chef italien qu'elle connaît bien. Pour avoir accompagné des opéras sous sa direction dans la fosse de l'Opéra National du Capitole, il s'appelle Michele Spotti et tout le monde était impatient de le voir à l'œuvre dans un programme symphonique. Serge, comment s'est passée sa première à la Halle aux Grains ?
Elle s'est passée, on ne peut mieux. Il faut rappeler tout de même qu'il a au moins dirigé, à ma connaissance, mais Robert peut m'infirmer ou confirmer ça.
Je vais te contredire s'il le faut, mais
la
vas-y.
La Traviata, Idomeneo, Cenerentola.
Voilà, oui.
Oui, c'est ça. Ouais, hein.
C'est bon, oui.
Bon,
oui.
Voilà. Et donc, il a dirigé, mais il n'était pas venu encore en concert. C'est la première fois qu'il dirige la phalange qu'il connaît bien, mais à la Halle aux Grains, dans un programme qui a quand même quelque chose à voir avec du lyrique. Hein,
oui, oui.
Puisque le programme s'ouvrait sur l'ouverture de la force du destin de Giuseppe Verdi, alors qu'il a dirigé avec une hargne, en quelque sorte, une vigueur. Vraiment, absolument formidable. L'orchestre le suit, une dynamique très contrastée, avec une large gamme de nuances. Il ne joue pas tout fortissimo, c'est pas ça du tout. Il joue avec beaucoup de nuances et d'intelligence. Donc, ça a été le premier succès de la soirée, pour lequel il a fait lever d'ailleurs, pour le beau solo de clarinette qui est là, David Minetti, grand clarinettiste, oui. S'il en est.
Et compatriote en plus.
Oui, exactement. Vraiment, ça a été excellent. Ensuite, le deuxième chapitre du concert, eh bien, il portait les couleurs d'Ottorino Respighi. C'était la suite de son ballet, La Boutique Fantasque. Alors, La Boutique Fantasque, c'était un ballet qu'il a composé à l'invitation de Serge de Diaghilev. Et donc, il en a tiré cette suite. Et c'est vraiment une pièce très belle, très dynamique aussi, très, très variée, avec effectivement des transcriptions pour orchestre, pour la plupart du temps, des pièces vocales et instrumentales de Rossini. Donc c'est une double paternité pour cette pièce signée de Respighi, avec notamment des danses très, très belles et très caractéristiques, comme la tarentelle du début ou le galop de la fin. Là aussi, très vivante, très animée, une belle, belle interprétation. Et puis, comme deuxième partie, alors là, c'était vraiment l'un des emblèmes de ce qu'est la musique romantique française, donc la grande symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Alors, j'ai retrouvé à cette occasion qu'une critique de l'époque qualifiait la symphonie de bizarrerie la plus monstrueuse qu'on puisse imaginer. Vous voyez un peu. Alors que les cinq mouvements, là, ont été vraiment répartis de manière absolument magnifique, avec cette succession de pièces, avec Rêverie et Passion, c'est peut-être le mouvement le plus complexe, hein, le plus long hein, d'ailleurs de la symphonie, avec ce motif de l'idée fixe que le chef a très bien pu caractériser, puisqu'on le retrouve ce motif, le motif de la bien-aimée, que l'on retrouve tout au long de l'œuvre. Là, bravo, de même que dans le bal, un bal exactement, avec à la fois un phrasé élégant, mais avec une inquiétude et une angoisse qui se manifestent. Enfin, la scène au chant, donc il y a l'épisode poétique et apaisant, avec ce touchant duo de hautbois, un hautbois sur scène, un hautbois en coulisses. Hein. C'est un beau moment poétique, donc avec la beauté des timbres instrumentaux. Et puis alors, la marche au supplice, bon, cauchemar effrayant, évidemment, avec guillotine oui. intégrée pratiquement. Et puis, le songe d'une nuit de sabbat, qui conclut l'œuvre donc de manière à la fois grimaçante et terrifiante, avec une orgie diabolique, et puis le surgissement de ce glas funèbre, donc suggéré là aussi par des cloches en coulisses, hein, avec cette parodie totalement burlesque du Dies Irae. Le chef a dirigé ça avec une intensité et un sens de la nuance vraiment formidable. Ça a été un très très grand succès, une véritable ovation qu'il a recueillie pour cette exécution, et il n'a pas cessé de remercier tous les musiciens de l'orchestre, tous les solistes qui se distinguent dans ce programme. Donc ça a été un très beau moment.
Robert, vous voulez intervenir?
Oui, je crois que c'était quand même un peu téméraire, hein. Oui. De la part de Miguel Spotti, parce qu'il s'est exposé pour la première fois dans une symphonie qui est un peu la symphonie signature de l'Orchestre du Capitole.
Exactement. Oui, enregistré par Michel
Plassans. Il l'a enregistré et joué maintes fois à la Lohengrin. Avec quel succès, dirigé par ce grand chef de la musique française qui est Michel Plassans. Mais donc... Serge, tu dis que bon, le challenge,
ah, le challenge a été relevé. Les musiciens l'ont applaudi. Donc,
Les musiciens avaient a priori forcément favorable, parce qu'il a été beaucoup apprécié par les musiciens, par le public aussi, à chaque fois qu'il a dirigé un opéra à Toulouse. Tous les voyants étaient au vert pour que ça se passe bien.
Absolument, ça a été très positif tout ça.
Eh bien, en tout cas, c'était une belle soirée de musique lors de laquelle a particulièrement brillé cette superbe symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Nous allons en écouter un extrait, le quatrième mouvement, La Marche au Supplice, dans une version enregistrée jadis par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Michel Plassans. C'était en 1989. Thank you. La marche au supplice de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz dans une version enregistrée en 1989 par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Michel Plasson. Le prochain concert de notre ensemble symphonique a lieu dimanche prochain, le 22 février. Il est destiné au jeune public et il va vous être présenté tout à l'heure en seconde partie d'émission. Nous avions annoncé il y a 2 semaines les concerts que l'orchestre Les Passions donnait à Montauban et à Toulouse les 13 et 14 février à l'occasion des 40 ans de sa création. Jean-Marc Andrieux, son fondateur et directeur artistique, qui était venu à Mélomanie pour présenter le programme de ses soirées anniversaires, sachant que d'autres rendez-vous sont prévus en 2026 pour fêter l'événement, notamment le 8 octobre prochain lors du 12e festival Passion Baroque à Montauban. Personnellement, j'ai assisté au concert donné samedi à l'église Saint-Exupère de Toulouse, où un public de fidèles avait bravé la pluie et le vent glacé afin d'écouter des concertos pour flûte à bec de Télémane et Sammartini, joués par 5 excellents musiciens. Je vais commencer par les musiciennes. Il y avait donc les violonistes Gilone Gobert et Josepha Jégard, ainsi que l'altiste Myriam Bis Cambrelin. La partie de violoncelle était assurée par Étienne Mangot. Et puis au milieu de ce quatuor à cordes, on trouvait bien sûr Jean-Marc Andrieux et ses 2 flûtes à bec, puisqu'il y avait des pièces pour flûte alto et flûte soprano. On ne rappellera jamais assez que Jean-Marc est non seulement un excellent directeur d'orchestre, mais qu'il est aussi un flûtiste à bec virtuose. Il a présenté, avec l'humour qu'on lui connaît, les œuvres et les compositeurs au programme, en distillant au passage quelques anecdotes savoureuses. Les 2 pièces de Télémane étaient au début et à la fin du concert. Nous avons entendu tout d'abord son concerto en do majeur, puis sa suite en la mineur pour flûte à bec et cordes, chacune composée pour flûte à bec alto, des œuvres très agréables à écouter que Jean-Marc Andrieux adore et où il a évidemment pu se mettre en valeur, solidement entouré et accompagné par son quatuor à cordes. Entre ces 2 œuvres, nous avons eu le plaisir d'entendre le concerto en fa majeur pour flûte à bec soprano de Giuseppe Sammartini, un contemporain de Bach et Vivaldi. C'est une pièce qui fourmille de trouvailles, dans laquelle la flûte soprano donne l'impression d'être un petit oiseau qui gazouille au milieu des cordes. Une ambiance printanière qui tranchait avec la froidure humide de ce triste samedi de février. Inutile de vous dire qu'elle a été très appréciée par le public. Celui-ci a longuement applaudi les 5 musiciens qui ne se sont pas trop fait prier pour donner un bis. En l'occurrence, la fameuse badinerie de la suite en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Une autre pièce virtuose du répertoire pour flûte à la conclusion de ce concert. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Andrieux et Les Passions dans leurs œuvres avec cette autre pièce de Télémane, la sonate en trio numéro 7, dont voici le premier mouvement, Vivace. Thank you. Premier mouvement vivace de la sonate en trio numéro 7 de Georg Philipp Telemann, joué par les Passions de Montauban et Jean-Marc Andrieux à la flûte à bec. Rendez-vous maintenant avec eux lors de la 12e édition du festival Passion Baroque en octobre prochain à Montauban. Pour terminer ce retour arrière, nous allons revenir sur le tout récent concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Il a eu lieu ce lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines où s'est produit un sextoir à cordes composé de musiciens de l'Orchestre National du Capitole. Le programme était sous-titré La Nuit Transfiguré et pour cause. Serge, rappelez-nous qui sont ces six musiciens et faites-nous part ensuite de vos impressions personnelles, vous qui avez pu assister à cette soirée.
Eh bien, décidément, il n'y a que de magnifiques concerts qui se succèdent. Et donc, ce concert-là était animé donc par six musiciens des pupitres de cordes, avec Christy Jezi et Xu Yangying au violon, et puis Juliette Gilles et Bruno Dubarry aux altos, et Sarah Yantzou et Pierre Gilles, violoncellistes, et qui se sont réunis autour de vraiment trois chefs-d'œuvre qu'ils ont portés sur des sommets musicaux, on doit dire. C'était éblouissant, de musicalité, de profondeur. Ça ne voulait pas en mettre plein la vue, c'était très, très bien fait, avec deux partitions liées à l'opéra, en particulier l'une de Richard Strauss et l'autre de Richard Wagner, et puis en deuxième partie du concert, la fameuse Nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg. Et tout au long de cette soirée, on a pu vraiment observer et admirer les qualités à la fois individuelles et collectives des musiciens. Leur pratique de la musique d'orchestre fait qu'ils jouent entre eux comme s'il s'agissait d'un orchestre, c'est parfait, avec un équilibre des voix, ce qui est très important au sein de l'ensemble, et des recherches de phrasés magnifiquement combinées. Alors, la première des œuvres qu'ils ont jouées était, en quelque sorte, le prélude du dernier des opéras de Richard Strauss, Capriccio, puisque pour cet opéra qui est réputé comme étant une conversation musicale, eh bien, elle débute par un sextuor à cordes, et donc c'est la version originale du sextuor qu'ils ont joué. Alors, le concert, je voudrais l'indiquer, était présenté par les musiciens. Et là, c'est Bruno Dubarry qui présentait la première partie, et Pierre Gilles qui présentait la deuxième. Donc, Bruno Dubarry a rappelé que c'était cette conversation musicale qui débutait dès le sextuor, puisqu'on a eu l'impression, à la manière dont les musiciens abordaient cette partie-là, à une sorte d'intimité chaleureuse entre eux, avec des choix de phrasés parfaitement coordonnés. Et puis l'œuvre suivante était aussi liée à l'opéra, et c'était encore un prélude, c'est celui de Tristan et Isolde, de Richard Wagner, alors qui était offert ici, dans une transcription particulièrement originale. Il est rarissime d'entendre une ouverture de Wagner transcrite pour sextuor à cordes. Et là, la transcription était l'œuvre du violoniste autrichien Sébastien Gürtler. Je dois dire, c'est une véritable découverte. On a l'impression d'entendre l'œuvre originale. Les thèmes essentiels sont parfaitement identifiés. Et l'émotion est au cœur de cette vision, avec ce grand crescendo que l'on connaît au centre de l'œuvre, qui prenait une force incroyable. On avait l'impression d'entendre encore une fois l'original. Et puis toute la seconde partie était consacrée donc à la Nuit transfigurée, alors cette mythique partition d'Arnold Schoenberg. Et comme l'a rappelé Pierre Gilles, c'est l'opus 4 de Schoenberg. Et donc c'est l'œuvre d'un jeune homme amoureux de 25 ans, puisque c'est pour celle qu'il aimait qu'il a composé cette Nuit transfigurée. Et en fait, c'est un argument, il s'est appuyé pour le composer, sur un poème de son ami Richard Demel, qui est extrait de son recueil « La femme et le monde ». C'est l'histoire d'un couple qui se promène dans la forêt et au cours de la discussion, la femme avoue à son amant qu'elle est enceinte d'un autre homme. C'est vraiment quelque chose de très original. Et donc, c'était très bien fait. En plus, il faut vraiment salué l'initiative des Clés de Saint-Pierre qui a tenu à ce que le poème original soit lu avant l'exécution de l'œuvre. Alors ça, c'est vraiment intéressant, d'autant plus qu'on a cru reconnaître la voix de Jean-Sébastien Borsarello, qui depuis les coulisses a dit ce poème magnifique, avec vraiment le ton qu'il fallait.
Il sait tout faire, ce garçon.
Ah oui, 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 formidable. Il est évidemment percussionniste, mais il est pianiste. Hein. Donc,
directeur de festival aussi.
Et oui, et puis donc, il est acteur en quelque sorte. L'œuvre en elle-même, alors progressait vraiment comme une construction, comme une série d'échanges entre les instruments. C'était de toute beauté, avec un équilibre entre les voix. Vraiment, encore une fois, je voudrais insister là-dessus sur l'équilibre que ces musiciens ont obtenu entre eux. Et donc, avec ces successions de solos, il y a un solo de violoncelle, il y a un solo d'alto, il y a un solo de violon. Et chaque fois, la parole est laissée au soliste avec une intensité expressive vraiment remarquable. Ça a été très applaudi et c'est un programme qui d'ailleurs sera redonné jeudi 19 février à Carcassonne, dans la chapelle des Jésuites, dans le cadre des Jeudis de l'Auditorium, avec les mêmes interprètes, le même programme, à 20h30, dans cette chapelle, tout à fait adaptée à ce style de musique. Donc, ceux qui vont assister ou qui sont proches de Carcassonne, vraiment, je leur recommande d'aller assister à ce concert.
La nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg, qui était donc l'une des trois pièces au programme du concert des Clés de Saint-Pierre, lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines, elle lui donnait même son sous-titre. Voici le mouvement Zer Ruhig de ce très beau sextoir à cordes. Zer Ruhig, extrait de La Nuit Transfigurée d'Arnold Schoenberg, l'une des trois pièces au programme du concert des Clés de Saint-Pierre lundi dernier à Saint-Pierre-des-Cuisines, programme qui est donc redonné par les mêmes musiciens ce jeudi 19 février à 20h30 à Carcassonne à la chapelle des Jésuites. Fin de cette première partie d'émission, une courte virgule musicale et nous nous retrouvons dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie en compagnie de Serge Chosy et de Robert Pénavert. A tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Et comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, nous allons commencer cette rubrique agenda avec l'événement lyrique du mois, les 8 représentations de Lucia di Lammermoor à l'Opéra National du Capitole du 20 février au 1er mars. dans la mise en scène de Nicolas Joël. Robert Pénavert va tout nous dire de cette production et notamment de sa prestigieuse distribution. Mais d'abord, comme vous en avez l'habitude, Robert, vous allez pouvoir nous faire un petit historique des programmations de l'opéra de Donizetti au Capitole. On va se contenter de la dernière production en date. Elle remonte à quand ?
La dernière production en date, c'est celle qui va être donnée au Théâtre du Capitole lors de ses reprises. Elle date de 1998.
Ah oui, tout de même.
Et elle a été reprise une première fois en 2004, puis elle a été reprise en 2017. Et donc, c'est la troisième reprise. Et on ne s'en lasserait pas, parce que, bon, vous l'avez vu, hein, tous, elle est signée d'un quatuor magique. Hein, Nicolas Joël à la mise en scène, Ezio Frigerio à la scénographie, son épouse Francoise Squarciapino au costume et un chef luminariste Vinicio Kelly qui est absolument extraordinaire. Oui. Et on ne se lasse pas de voir cette production. Alors, cette production, vous savez que l'histoire se passe dans l'Écosse à la fin du XVIe siècle. Quand le rideau s'ouvre, nous sommes en Écosse à la fin du XVIe siècle, voilà. Donc, si vous allez au Capitole pour voir des Kalachnikov et des tanks, etc., non, Nicolas Joël a tenu absolument à présenter ce chef-d'œuvre absolu du romantisme italien dans son cocon historique, et c'est une très très grande réussite. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est repris aussi régulièrement, et je suis pas persuadé d'ailleurs que ce soit la dernière fois. Voilà. Alors, si vous voulez que je vous raconte un peu l'histoire.
Oui.
Bon, alors elle appartient à cette vague de romans signés Walter Scott, et dont beaucoup de compositeurs se sont inspirés, Rossini pour La Donna del Lago, Bizet également pour La Jolie Fille de Perse, plein d'autres compositeurs s'en sont inspirés parce que ce sont des histoires très chevaleresques, très romanesques, avec beaucoup d'amour brisé, malheureuse, enfin voilà. Et à l'opéra, vous le savez.
C'est La fiancée de la mère Moore, le titre original hein, de l'œuvre de Walter Scott, pas du roman de Walter Scott.
La fiancée de la mère Moore, The Bride of la mère Moore, ouais, exactement. Largement inspirée donc d'une pièce de Walter Scott, qui elle était, faut le dire, inspirée d'un fait divers. Donc nous sommes en Écosse à la fin du XVIe siècle. Alors Lucia Ashton aime secrètement Edgardo, héritier des Ravenswood. Alors là, déjà, on commence à poser une situation un peu, c'est Roméo et Juliette, c'est West Side Story, c'est, voilà, c'est les amours impossibles.
Entre
voilà.
Deux clans rivaux.
Voilà.
Qui peuvent pas se réconcilier.
Les Ravenswood ont été ruinés par le frère, Enrico, le frère de Lucia. Alors, on ne nous explique pas pourquoi, d'ailleurs, ça n'intéresse personne, à vrai dire. Dans la pièce de Walter Scott, si, c'est expliqué, ça prend des chapitres et des chapitres. Alors, avant de partir en mission diplomatique, Edgardo échange avec Lucia des serments d'amour. Mais tout ça, Enrico ne le sait pas, parce qu'Enrico, il a une autre idée en tête. Parce qu'en fait, bien qu'il ait dépossédé la famille Ravenswood, il a tout dilapidé. Et donc, en fait, il veut que sa sœur épouse un prétendant très riche, etc. Mauvaise idée pour le prétendant, on va l'expliquer tout à l'heure. Et pendant que Edgardo est parti à l'étranger en mission diplomatique, évidemment, il écrit régulièrement à sa bien-aimée, mais il y a des sbires d'Enrico qui captent les courriers et évidemment qui ne les font pas passer. On imagine que dans ces lettres qui sont détournées, il y a plein de serments d'amour enfiévrés, etc. Bon, voilà. Mais en lieu et place, hein, il passe à Lucia, cette pauvre Lucia, une lettre, une fausse lettre évidemment, dans laquelle très clairement Edgardo est amoureux d'une autre femme. Finalement, après avoir dit non à son frère sur le mariage avec la famille Talbot, elle finit par dire oui et elle signe. Et juste au moment où elle a signé, Edgardo revient de mission et il la voit en train d'accomplir le crime absolu pour lui. Mais comment, tu m'as oublié, etc. Bon, bref. Et mais trop tard, c'est signé. Et le mariage donc a lieu. Edgardo s'enfuit fou de rage. Et dans la nuit qui suit, pendant que les invités font la fête, Lucia va tuer son fiancé.
Voilà. Son mari.
Son mari, finalement, tu as raison, son mari, ils sont mariés, oui, tu as raison. Et alors que tout le monde fait la fête dans ces bois, elle arrive avec sa robe de mariée, blanche, maculée de sang. Et c'est évidemment la scène que tout le monde attend dans Lucia.
La scène de la folie.
D'ailleurs, les scènes de la folie au 19e siècle étaient quasiment un passage obligé dans certains opéras.
C'est une période romantique. Le crime passionnel, évidemment, vous pensez bien.
Mais pas qu'en Italie. Il y a aussi des scènes de la folie en France.
Bien sûr.
Hamlet.
Je pense bien.
Voilà. C'est pas fini. Donc, elle meurt. Bien sûr. Et du coup, lorsque Edgardo apprend ça, eh ben, il se tue. Donc, heureusement qu'il reste le chapelain Raimondo pour bénir les corps. Sinon, c'est un peu comme à la force du destin. Quoi.
Oui.
Force du destin, il n'y a plus un seul survivant. Voilà.
Quelle histoire.
Il n'empêche qu'entre-temps, on s'est vraiment régalé. En particulier, le Septuor qui est au deuxième acte, qui est un chef-d'œuvre extraordinaire.
Bon, alors si on s'est régalé, les morts, on fera avec.
La triste aventure voilà, donc, de
l'histoire,
l'intrigue,
les personnages principaux. Et vous allez bien sûr nous présenter la distribution, la double distribution pour les rôles principaux de cette production à l'Opéra National du Capitole. Avant cela, on va écouter celle qui incarne Lucia sur la scène du Capitole du 20 février au 1er mars, la soprano australienne Jessica Pratt, grande spécialiste du rôle. Elle interprète ici un des airs célèbres de l'opéra de Gaetano Donizetti, Il Dolce Suono. Il Dolce Suono, le doux son, air de Lucia dans la première scène de l'acte 3, chanté par Jessica Pratt. La soprano australienne tient donc le rôle titre de l'opéra de Donizetti au Théâtre du Capitole, en alternance avec Giuliana Gianfaldoni du 20 février au 1er mars. Robert, le moment est venu de nous présenter la distribution de cette production, sachant que les rôles principaux sont doublés, voire triplés. Il y a vraiment du très beau monde.
Oui, mais pardon Eric, mais je ne peux pas résister quand même à l'envie. Les cinéphiles qui nous écoutent ont retrouvé le grand air de la diva interstellaire Plava Laguna dans le sixième élément, le cinquième élément,
plutôt
pardon.
Le cinquième
élément,
ça suffit.
Voilà. Et chaque fois, alors il faut savoir que c'était Imvamula
qui
l'interprétait.
Donc Robert, on va commencer par la direction musicale. Donc ce devait être le chef espagnol José Miguel Pérez Sierra qui devait assurer cette direction. Il a malheureusement dû se retirer et il est remplacé par un Italien, Fabrizio Maria Carminati.
Voilà, tout à fait, que nous allons découvrir. Je suis persuadé que ça sera une heureuse rencontre, comme très très souvent dans ces cas-là. Et alors donc, il va avoir devant lui d'abord une double distribution. Alors, quand j'ai dit plus une, je vais m'expliquer. D'abord, dans le rôle titre, dont vous l'avez dit, Eric, la soprano australienne Jessica Pratt, qui fait ses débuts à Toulouse. Elle a l'habitude de chanter ce rôle partout dans le monde.
Hein.
C'est une spécialiste et nous connaissons ce qu'elle fait et nous l'applaudissons amplement. Mais ce qui est encore plus excitant, c'est de découvrir dans une prise de rôle une jeune soprano italienne, Giuliana Gianfaldoni. Alors ça, c'est sacrément excitant parce que s'exposer comme ça au Théâtre du Capitole dans un rôle aussi marqué que Lucia di Lammermoor, ça promet un certain tempérament. Face à elle, il va y avoir donc deux ténors. Devant Jessica Pratt, il y aura Pene Patti. Nous avons ici entendu son frère, Amitai Patti, déjà. Et maintenant, c'est Pene Patti qui, il faut reconnaître, fait une carrière un peu plus large que son petit frère. Pene Patti étant maintenant un ténor bien installé dans le premier circuit. Et j'imagine que Christophe Grissi est très heureux de pouvoir le présenter
à Toulouse.
Au Théâtre du Capitole. Voilà. Alors, à côté, il y aura également Brod Magnus Todenes. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Oui,
mais
on
l'a entendu dans Lenski, on l'a entendu dans Tamino. Et franchement,
à chaque fois formidable.
Ah oui, c'est toujours extraordinaire, vraiment extraordinaire. Moi, personnellement, je suis très heureux de le retrouver. Mais ça ne s'arrête pas là.
Oui.
Au milieu des deux,
parce que là,
il y en a un troisième qui, lui, est quand même très installé dans sa carrière. C'est le Mexicain Ramon Vargas que nous avons eu le plaisir d'entendre déjà au Capitole. C'est une figure de la gent ténorisante mondiale depuis des dizaines d'années. Voilà. C'est un grand honneur en même temps de l'avoir. Ce rôle, il a chanté un peu partout également, sur les plus grandes scènes, faut-il le dire. Et ensuite, il a le méchant de l'histoire, c'est-à-dire le frère.
Enrico.
Et alors là, on va pas découvrir exactement, mais dans un rôle d'une telle importance, un baryton belge qui s'appelle Lionel Lott. Et moi, je suis franchement très, très heureux de l'entendre exposer comme ça, parce que c'est pas quand même rien. C'est un rôle qui annonce d'ailleurs son air avec Cavatine, récitatif, air et Cavatine au premier acte, annonce les grands Verdi. En plus, il y a des duos, c'est quand même passablement exposé. Donc c'est très bien que Christophe Grissi lui ait donné la parole, si j'ose dire. Il va être en binôme avec un baryton argentin, Germán Enrique Alcántara. Alors lui, franchement, je ne le connais pas. Il est vainqueur de je ne sais pas combien de prix de par le monde. Donc faisons confiance encore une fois à Christophe Grissi pour nous présenter un interprète
de grande qualité. Il devrait ravir le public.
Voilà. Le malheureux de l'affaire, c'est évidemment
Arturo
Talbot, celui qui va faire que passer, si je puis dire, puis qui va se retrouver oxy par sa bien-aimée. C'est Valentin Till, un ténor que nous suivons également
à Toulouse,
et avec quel plaisir, évidemment. Alors on va le retrouver dans un rôle qu'on peut qualifier secondaire. Cela dit, il a un air d'entrée, enfin si on peut appeler ça un air, une phrase d'entrée. J'ignore pourquoi Donizetti l'a écrite de manière aussi escarpée et tendue. Donc il faut quand même un interprète de qualité. Dans le rôle du chapelain, Raimondo, c'est un rôle d'ailleurs extrêmement ambigu, nous allons entendre Michele Pertusi. Enfin, je serais tenté de dire, enfin. Alors, c'est pas tout à fait un fait, parce que c'est un immense baryton de répertoire italien et mozartien. Et pour ceux qui ont de la mémoire, souvenez-vous, en mai 1990, Nicolas Joël le présentait à Toulouse. Il avait 25 ans alors, Michele Pertusi, dans Don Giovanni. Et puis, plus rien. Il faudra attendre 2017 pour le retrouver dans Silva d'Hernani de Verdi. Bon, maintenant, Michele Pertusi chante dans les top 5 en permanence, plus les arènes Vérone, etc., etc. Lui aussi fait partie du premier cercle des grandes basses. Il sera en alternance avec, à nouveau, un interprète que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Alessio Cacciamani, j'imagine qu'il est italien, et que nous allons découvrir dans le rôle de Raimondo. Alors attention au personnage de Normanno, qui est alors vraiment le fief coquin de l'affaire « C'est l'ombre noire d'Enrico », c'est Fabien Yon.
Oui, alors, qu'on Fabien a déjà Yon, entendu, qui est
d'abord,
excellent.
Nous le connaissons.
Oui, oui.
Mais en plus, à la fin de la saison, Christophe Grissi le présente
oui,
dans Don José, ce qui est pas rien quand
oui,
même.
Oui, oui.
Et puis enfin, nous allons retrouver dans le rôle vraiment épisodique d'Alisa, la mezzo Irina Sherazadishvili, que nous avons applaudi et que nous aimons. En 2024, elle chantait Fenena dans Nabucco. Et l'année dernière, elle chantait Cornelia, et de quelle manière, dans Jules César de Handel. Donc c'est vraiment une distribution. Mais franchement,
moi, quand j'ai dit prestigieuse, je ne vais pas exagérer. Hein.
Pas du tout, Eric.
En plus, il y a beaucoup de découvertes.
Oui, oui, mais c'est ça. Et ça, c'est très excitant, en fait.
Hein, voilà. Alors,
ça, c'est là, une des caractéristiques de Nicolas Joël. Hein, de Nicolas Joël.
De Christophe Grissi.
De Christophe Grissi, c'est de faire débuter dans des rôles importants.
Importants.
Personnalités qu'il rencontre dans le monde. Hein,
écoutez, il y a vraiment tout pour
que
vous donner envie.
Que de
donner envie. Est-ce qu'il reste des places?
Très peu, non, il reste très peu.
Il y a eu une représentation.
Allez,
donc il faut foncer pour ceux qui
veulent. Il faut foncer pour trouver les derniers fauteuils.
Vraiment pas tarder, là. Hein.
Oui.
Bon, évidemment, l'orchestre du Capitole dans la fosse et le chœur de l'Opéra
Et le chœur dirigé par Gabriel
Bourgoin, qui fait de l'excellent travail aussi.
Comme une fois Christophe Grissi le dit, je ne serais pas directeur d'un grand théâtre si je n'avais pas un grand orchestre et de grands chœurs.
Voilà donc pour cette production à découvrir du 20 février au 1er mars à l'Opéra National du Capitole. Il nous reste un peu de temps pour annoncer les autres concerts de la semaine. Serge va nous faire ça aux petits oignons. On commence avec un rappel concernant les concerts que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse les jeudis 19 et vendredi 20 février à Saint-Pierre-des-Cuisines. Mm-hmm. Le programme est sous-titré « Women, femmes » et nous allons y entendre la jeune violoniste Esther Abrami.
Oui, alors ce programme donc est un programme d'œuvres de compositrices et uniquement avec des œuvres de Fanny Mendelssohn, Ilse Weber, Chiquinha Gonzaga, Hildegard von Bingen, vous voyez, de toutes
oui,
les époques, ça remonte au Moyen-Âge, Louise Farenc, Rachel Portman, Angela Morley, Ethel Smith et Nicolas Piovani. Nicolas sans S, puisque c'est un prénom féminin, en l'occurrence. Voilà pourquoi le titre de cette série, c'est Women au pluriel. Hein,
oui.
Donc c'est des femmes qui font la matière de ces concerts, donc à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines à 20h30.
Double concert, donc les 19 et 20 février, donc jeudi et vendredi cette semaine. Et dans ce programme à la gloire des compositrices, on trouve la pièce Corta Jaca de la compositrice brésilienne Chiquinha Gonzaga. Elle a été enregistrée sur le CD Women d'Esther Abrami, ce qui nous donne le plaisir de pouvoir l'écouter dans cette émission.
Thank you.
Corta Jaca, pièce de la compositrice brésilienne Chiquinha Gonzaga, un extrait du CD Woman d'Esther Abrami. La jeune violoniste se produit donc avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse, c'est jeudi 19 et vendredi 20 février à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et puis le samedi 21 février, rendez-vous de gala à la Halle aux Grains avec l'un des plus grands pianistes en activité, le russe Danil Trifonov, invité par le cycle des grands interprètes pour un récital qui commence à 20h. Là aussi, c'est un véritable événement, Serge.
Oui, absolument. Alors, c'est un jeune pianiste et compositeur qui est né en 1991, donc c'est un...
À peine 35 ans. Hein.
Mais il est déjà venu. Il est venu le 4 mai 2015, mais c'était en compagnie du grand violoniste Gideon Kremer. Et puis, il y avait même un violoncelliste. Là, pour cette venue où il vient tout seul, eh bien, c'est un programme en deux parties. Une partie intégralement russe, avec un prélude et fugue de Sergueï Taneïev, donc...
Je ne connais pas, moi.
C'est un compositeur qui est mort en 1915, donc ça le situe, en quelque sorte. Alors, par contre, Piotr Ilitch Tchaïkovski, bon, il n'est plus la peine de le présenter, mais il va jouer une pièce qui s'appelle « Album d'enfants » et qui est composée de 24 petites pièces. Oui. Donc, pour les enfants, quand on pense également...
Oui, oui, bah, on peut penser aux scènes d'enfants de Schumann.
Mais enfin, justement, voilà. Schumann qui va faire partie du programme. Et puis, troisième compositeur russe, Nikolai Myaskovski, avec sa sonate en fa dièse mineur, numéro 2. Donc, deux compositeurs russes peu connus, l'un très connu. Et en deuxième partie, il y aura la sonate en fa dièse mineur, numéro 1, de Robert Schumann, justement, donc qui a beaucoup écrit pour les enfants, lui aussi. Voilà ce qui sera donné dans ce récital, dans la série des grands interprètes.
Donc ce n'est pas la première apparition de Danil Trifonov à Toulouse, mais c'est sa première dans un récital solo. Et c'est certainement un des plus grands pianistes du monde aujourd'hui, Danil Trifonov. Beaucoup vont aller voir ce concert, pianiste ou pas pianiste d'ailleurs, pour voir ce qui est un peu un phénomène. Hein. Il est présenté comme tel et s'en est un. Mmh. Alors je n'ai pas d'extrait joué par Trifonov d'une des pièces au programme du récital qu'il donne le 21 février à la Halle aux Grains, mais je peux tout de même vous faire écouter le grand pianiste russe dans du Schumann. Il interprète ici la 12e pièce de Carnaval opus 9, celle qui est sobrement intitulée Chopin. Chopin, 12e pièce de Carnaval opus 9 de Robert Schumann, interprétée par Danil Trifonov, dont il ne faut surtout pas manquer le récital qu'il donne ce samedi 21 février à 20h à la Halle aux Grains, dans le cadre de la 40e saison du cycle des grands interprètes. Serge, il nous reste à annoncer le concert jeune public que donne l'Orchestre National du Capitole, dimanche 22 février à 11h, comme c'est le cas la plupart du temps. S'agissant de ses concerts familiaux du dimanche matin, il est dirigé par Christophe Mangou. Et là, c'est un conte musical qui a pour titre « La grenouille à grande bouche ».
Oui, voilà, un conte musical qualifié de participatif pour récitant, orchestre et public. Donc le public va devoir participer.
C'est ce qu'on comprend.
Ouais, ouais.
On ne sait pas de quelle manière, mais en tout cas, le public est appelé à participer au concert.
Oui, exactement. Et donc, avec la complicité du compositeur Jean-Claude Gingembre, qui a composé la musique de cette grenouille à grande bouche.
Et puis il y aura évidemment une récitante, hein, comme à chaque fois. Oui. Et c'est Maëlle Mietton. Alors je crois que c'est vraiment une production collective, hein, et ils ont tous participé à la création, y compris Christophe Mangou. Et puis on va avoir droit donc à la restitution, si on peut dire, en public à Toulouse. Oui. À 11h ce dimanche 22 février. Robert, vous voulez nous dire quelque chose?
Oui. La grenouille à la grande bouche. Quand on a un petit enfant, on connaît l'histoire.
Oui.
On sait comment ça se finit.
C'est vrai.
Alors, sans spoiler, il y a une histoire de confiture à la fin.
C'est peut-être pour ça que le public va participer.
Oui, le public va participer parce qu'il faut mimer un certain nombre de choses. Voilà. Les gamins adorent ça.
Ah bah vous en avez dit juste assez pour donner envie à ceux qui nous écoutent d'aller voir ce qui se passe dans ce conte musical et participatif, La Grenouille à Grande Bouche, donnée ce dimanche 22 février à 11h à la Halle au Grain par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Christophe Mangou avec la conteuse Maëlle Mietton. Les réservations et l'achat des places sont à faire sur le site www.onct.toulouse.fr. L'Orchestre de Chambre de Toulouse accompagne la violoniste Esther Abrami lors de deux concerts à Saint-Pierre-des-Cuisines. C'est jeudi 19 et vendredi 20 février à 20h30. Le programme reprend les pièces du CD Women qu'a fait paraître la jeune musicienne l'an passé et la billetterie est en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. D'autre part, pour le récital de Daniil Trifonov, samedi 21 février à 20h à la Halle au Grain, dans le cadre de la 40e saison des Grands Interprètes, vous pouvez faire vos réservations et acheter vos places en vous connectant à l'adresse www.grandsinterprètes.com. Et puis je rappelle enfin que 8 représentations de Lucia di Lammermoor, l'opéra de Gaetano Donizetti, sont programmées au Théâtre du Capitole du 20 février au 1er mars dans la mise en scène de Nicolas Joël, avec une distribution très prestigieuse que vous a détaillée Robert Pénavert. La billetterie est en ligne sur le site www.opera.toulouse.fr. Merci une fois de plus à Robert et à Serge Chosy d'avoir co-animé cette émission avec moi. Et merci à Coraline Camebrac de l'avoir réalisée. Le podcast est téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Merci pour finir aux fidèles auditeurs de Mélomanie, à ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.